Histoire et Histoire, une émission de la radio Esprit Occitanie animée par Monique Grieux avec la présence amicale de Jacques Laverne. Regard croisé sur le patrimoine de notre région avec tous ceux qui le découvrent, l'étudient et le protègent. Archéologues, historiens, conservateurs, politiques, archivistes, bénévoles d'associations, tous nous offrent une vision sans cesse renouvelée de notre connaissance du passé, riche d'enseignements, de découvertes et d'émotions.
Bonjour Bertrand Defoy.
Bonjour Monique Grieux.
Bonjour Jacques Lavergne.
Bonjour.
Alors pour rejoindre Bertrand Defoy, aujourd'hui j'ai pris l'autoroute A20, sortie Cahors Nord, direction Cabreret. Mm-hmm. Sur l'autoroute, j'ai vu un panneau avec deux chevaux stylisés, une robe à petits pois. Alors où sommes-nous exactement aujourd'hui, Bertrand Defoy ?
Alors nous sommes ici sur le site du Pêche-Merle. Sur la commune de Cabreret, on est dans la région du Quercy, dans le département du Lot.
Très bien, donc vous êtes ici depuis pas mal d'années déjà.
Oui, quelques années, oui, en effet.
Depuis 2004 ?
Depuis 2004 à temps plein, j'y suis arrivé en 97, j'étais stagiaire à l'époque.
Donc vous occupez aujourd'hui la mission de conservateur du musée et
oui.
Du site
oui.
De la grotte Pêche-Merle. Vous avez une expérience assez intéressante puisque vous êtes passé en histoire de l'art et archéologie au Panthéon, Sorbonne, puis à l'université de Toulouse 2, mais auparavant vous avez fait un DESS direction de projets culturels à l'Institut des sciences politiques de Grenoble. Mmh. Et donc vous avez bien sûr de 1993 à 2004 effectué plusieurs chantiers de fouilles en archéologie préventive et en fouilles programmées, mais aussi de la médiation en archéologie, animation scolaire, engagement associatif. Donc vous aviez à l'époque toutes les casquettes pour arriver à Pêche-Merle et pouvoir occuper toutes les missions qui sont les vôtres aujourd'hui.
Mmh. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'intéressait quand j'ai découvert l'archéologie, et puis au-delà de l'archéologie, la préhistoire, ce qui m'a vraiment passionné, c'est à la fois le métier de l'archéologue lui-même, le travail de terrain, puis le travail de réflexion que les objets découverts amènent, toutes les questions qu'ils posent. Et puis, au-delà du travail de recherche scientifique, c'est également la médiation en direction du public. Et donc, c'est vrai qu'assez tôt, je me suis engagé dans le domaine associatif ou scolaire pour diffuser le travail de l'archéologue et ce que l'on connaissait de la préhistoire. Et c'est un boulot qui est passionnant.
Donc la préhistoire, vous l'avez vraiment découverte ici ?
Alors non, je l'ai découverte auparavant à travers plusieurs chantiers de fouilles, notamment dans les Pyrénées, sur un site néolithique qui était fouillé à l'époque par Jean Vaquer et François Briouat. Donc voilà, c'est là où j'ai fait mes armes en fait en fouilles archéologiques en préhistoire. Et puis après, il y a eu d'autres chantiers. Ici, en arrivant sur Pêche-Merle, le contexte était un petit peu différent, parce que Pêche-Merle, c'est à la fois un site archéologique à travers la grotte Ornée, avec des peintures qui datent du Paléolithique, et puis c'est également un musée de préhistoire qui s'intéresse à toute la région du Quercy. Et donc on a les deux entités, et la grotte et le musée forment ensemble le centre de préhistoire, et on a là un équipement qui est quand même assez fabuleux pour pouvoir s'adresser au public et puis pour pouvoir diffuser la recherche en préhistoire. C'est d'ailleurs un site unique d'avoir sur un même lieu une grotte ornée authentique et un musée de préhistoire. Ça n'existe nulle part ailleurs en France.
Oui, en général, c'est dissocié. Les équipements sont dissociés.
Oui.
Effectivement. Alors, pour nos auditeurs, parlez-nous un peu de cette grotte. On parle de la grotte ou des grottes du Pêche-Merle ?
On parle de la grotte. Il n'y en a qu'une, ici. La grotte du Pêche-Merle. Elle a été premièrement explorée, enfin, sans doute explorée dès la fin du 19e. Les traces les plus anciennes datent du début du... fin 19e, oui, et début 20e. Les premières incursions dans la grotte sont aux alentours de 1905-1906. En fait, Pêche-Merle, la grotte de Pêche-Merle se compose de deux niveaux. Il y a un niveau de galerie supérieure qui a été exploré dans un premier temps, donc au début du 20e siècle. Et il y a uniquement de la géologie, aucune trace préhistorique. Et c'est après la Première Guerre mondiale, en 1922, où il y a trois adolescents du village de Cabreret qui avaient entendu parler dans la famille des récits de, voilà, d'exploration de cette cavité, etc. Et l'un d'entre eux, le plus âgé, André David, lui, ça le faisait rêver. Et il avait vraiment envie de reprendre l'exploration de la cavité. Il y a entraîné son copain Henri Dutertre. Et ils y sont allés à plusieurs reprises, 2, 3, 4, 5 fois, pour explorer cette partie de grotte qui était déjà assez grande. Et en septembre 1922, ce jour-là, ils étaient accompagnés par la petite sœur d'André David. Ils ont trouvé un passage, en fait un long boyau, qui leur a permis de déboucher dans la galerie inférieure de la grotte, qui était jusqu'alors inconnue. Et c'est là où se trouvent les dessins. Donc, c'est en septembre 1922 que les peintures paléolithiques de la grotte du Pêche-Mère ont été découvertes par donc, ces trois adolescents qui avaient entre 13 et 16 ans à l'époque. Donc voilà, la découverte des peintures, 1922, on a fêté le centenaire, en fait, de la découverte... Il y a tout juste un an.
Alors, rapidement, ils ont été rejoints quand même par un spécialiste. Pouvez-vous nous parler d'André Lemozy ?
Oui, Amédée Lemozy.
Amédée, pardon.
Oui, alors Amédée Lemozy, c'est sans doute l'élément déclencheur en fait, de cette découverte. C'est un curé qui, à l'époque, était également préhistorien. Ça se faisait pas mal quand même à cette époque-là.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui, ou de curés, je ne sais pas comment il faut dire, qui ont fait qui étaient préhistoriens, oui. Qui ont fait des recherches, qui ont fait des fouilles. Je ne sais pas s'ils avaient des capacités, s'ils ont toujours bien préservé les sites comme il lui fallut, mais en tout cas, ils ont été moteurs à une certaine époque.
Ils ont été extrêmement moteurs, et pour un certain nombre d'entre eux, ils ont extrêmement bien travaillé, vu les connaissances de l'époque. Ils ont tout d'abord recherché et trouvé des sites archéologiques, et ensuite ils les ont étudiés, ils ont fait des fouilles. Et il y en a qui ont extrêmement bien travaillé. Et c'est le cas d'Amédée Lemozy. Et il est nommé, en fait, ce jeune prêtre, je crois qu'il avait 23 ans quand il a été nommé ici à Cabreret. C'était en 1919, donc au sortir de la Première Guerre mondiale. Il avait déjà une expérience de préhistorien. Auparavant, il était dans la région de Rocamadour. Et il avait fait ses premières fouilles, il avait fait ses premières découvertes, dont la première grotte ornée découverte dans le Lot, qui est la grotte Murat, juste à côté de Rocamadour. Et donc, ce prêtre préhistorien arrive dans la commune de Cabreret en 1919, et immédiatement, il prend sa charge, il fait les offices, il fait le catéchisme, et puis à la fin du catéchisme, avec les enfants qui sont là, il sort ses collections de préhistoire pour leur montrer des objets, des silex, des outils en os, etc., en leur disant, les enfants, voilà ce que sont des objets préhistoriques, si jamais vous en trouvez par chez vous, ou dans les environs, prévenez-moi, ça m'intéresse. Et puis si jamais vous connaissiez des grottes où il pourrait y avoir des dessins, écoutez, moi aussi je suis intéressé, ça peut être des dessins anciens qui datent de la préhistoire, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà. Alors en faisant ça, il a sensibilisé les enfants du village, de la commune, de la paroisse, sans doute quelque part il les a peut-être un petit peu incités aussi à la recherche, et c'est à la suite de ça en fait que plusieurs découvertes vont se faire dans la région. Alors, Lemozy, lui, va découvrir la grotte Marcenac, qui est à 200 mètres d'ici, qui est une autre grotte ornée paléolithique. Et puis, il y avait le jeune André David qui a découvert les dessins de Pêche-Merle. Donc, effectivement, dès la découverte faite par les trois enfants en 1922, leur premier réflexe, c'est d'aller voir le prêtre, le curé, en leur disant « Monsieur le curé, on a trouvé dans la grotte des dessins avec des drôles d'animaux, des tortues, des animaux complètement fantasques qu'ils n'avaient pas réussi à identifier à l'époque. » Et donc, quelques jours après, effectivement, Amédée Lemozy est venu dans la grotte, a vu les dessins, il est resté bouche bée devant la taille des figures, la qualité des dessins, et ça a été le premier chercheur, le premier scientifique qui a fait une étude approfondie de la grotte de Pêche-Merle, et il en fera un ouvrage paru en 1929. C'est la seule monographie, d'ailleurs, qui a été faite sur Pêche-Merle et qui s'intitulait « La grotte-temple du Pêche-Merle ».
Alors, pour tenter nos auditeurs de venir vous rendre visite et de voir effectivement ces dessins, en fait, quelles sont les représentations qu'il y a dans la grotte ? Y a-t-il seulement des peintures ou d'autres types d'œuvres d'art pariétal ?
Il y a énormément de choses, en fait, dans la grotte. Au niveau des dessins, on a de la peinture et on a des gravures. Pour l'essentiel, ce sont surtout des dessins peints. Les gravures existent, mais je dirais peut-être qu'il y en a, je n'ai pas fait le compte là, mais Des dessins gravés, ça doit se chiffrer sur 2-3 dizaines à peu près. Tout le reste, ce sont des dessins qui ont été peints. Au total, on a recensé près de 800 motifs dans la cavité. Et sur ces 800 motifs, il n'y a que 70 animaux. Donc on a... C'est surtout ce que l'on repère le plus facilement quand on fait la visite de la grotte, les animaux, parce que ça nous parle, parce que c'est identifiable pour notre œil. Mais il y a également quantité d'autres éléments que l'on appelle des signes géométriques, qui étaient peut-être des symboles à l'époque. En tout cas, des éléments voilà, abstraits, non figuratifs. Donc voilà, et on a des dessins qui ont... Alors une des particularités de Pêche-Mer, c'est d'avoir des dessins de grande dimension. On a en particulier les deux grands chefs-d'œuvre. C'est le panneau des chevaux ponctué, qui lui fait 4,50 m de large sur un peu plus de 2 m de haut. Et puis on a l'autre composition qui s'appelle la frise noire, qui là fait 7 m de large sur 2,50 m de haut avec 25 animaux qui sont représentés. Donc là on a deux grands panneaux extrêmement bien construits, très composés. Et n'importe qui rentre dans la cavité, dans la salle principale, on ne peut pas les louper, on ne peut pas les rater, ce sont des dessins que l'on voit de manière très évidente. Et à l'inverse, il y a des dessins qui ont été volontairement cachés. On a des compositions un peu moins grandes en surface, mais qui ont été faites vraiment dans des recoins, dans des micro-salles où on peut être à une ou deux personnes maximum, qui sont difficiles d'accès, et donc là on a vraiment le sentiment que ce sont des dessins qui ont été faits pour ne pas être vus en fait. Des dessins qui ont été tracés pour être cachés. Donc on peut avoir ici à Pêche-Mer des dessins qui ont des statuts entre guillemets un peu différents. Il y a des dessins, des compositions plutôt publiques, où on peut voir, on peut être à facile 10, 15 personnes pour voir ces dessins-là, et d'autres au contraire qui sont réservés, peut-être à des initiés, on ne sait pas.
Oui, vous parlez d'espace plutôt... restreint, un peu secret, mais ce qui est fabuleux dans la grotte du Pêche-Mer, c'est aussi le lieu, la grotte comme cavité naturelle. Sur combien de centaines de mètres s'étend-elle ?
Alors la grotte, sur ses deux niveaux, avoisine les 2 km, mais la partie fréquentée par les préhistoriques doit faire à peu près la moitié, à peu près 1000 mètres de développement. Et c'est vrai que le cadre naturel de la cavité est assez étonnant, parce qu'on a la chance d'avoir, d'un point de vue géologique, une grotte qui est magnifique, avec des salles de tailles différentes et énormément de concrétions. Alors, quand on parle de concrétions, c'est stalactites, stalagmites, draperies, colonnes, etc., tout ce qui est en fait formation de calcite, hein, ces cristaux de calcaire. Et toutes ces concrétions varient en forme, en couleur, et tout ça, ça crée une atmosphère, ça crée une ambiance qui est tout à fait particulière.
Est-ce que, comme dans d'autres grottes, les études ont permis de comprendre que les volumes, justement, de la grotte, le relief des parois, avaient pu être utilisés aussi pour montrer, finalement, le relief aussi des volumes des animaux? Est-ce que vous le constatez, ça aussi, ici ou...
Oui, il y a certaines figures qui jouent avec la forme de la roche ou le relief de la paroi. Oui, oui. Et en particulier, ben, le panneau le plus célèbre, le panneau des chevaux, les chevaux ponctués, où on a deux chevaux qui sont tête bêche, et le cheval de droite s'inscrit dans une forme naturelle de la paroi qui forme la silhouette d'une tête de cheval, et qui est une forme naturelle de la roche. Donc là, c'est... un bel exemple de l'utilisation de la forme naturelle pour effectuer un dessin.
Amédée Lemozy donc a découvert aussi ses peintures, les a étudiées, oui. Les a enregistrées en quelque sorte grâce à cette publication. Est-ce qu'il y a des outils ou d'autres traces de l'occupation humaine ou de la présence humaine qui ont été mises en évidence à l'époque ?
Oui, mais alors il y a d'autres traces effectivement qui ont été repérées à cette époque-là. Alors, ce qui est assez novateur pour le début des années 20, c'est qu'à partir du moment où la grotte est découverte, ils ont pris des précautions. Et Amédée Lemozy, oui. Qui est devenu un peu le chef scientifique de l'étude et de la conservation de la grotte à cette époque, a pris toutes les précautions pour éviter de dégrader la cavité. Et ce qui a permis la découverte, par exemple, d'empreintes de pas. On a dans une des salles de la grotte des empreintes de pas, de 6, 7 personnes à peu près, des empreintes qui ont été imprimées dans ce qui était à l'époque de la boue. Et ensuite, cette boue s'est asséchée, recouverte d'un voile de calcite. Et aujourd'hui, on a des empreintes qui sont parfaitement préservées, mais qui datent du paléolithique.
Et comme agneau,
par comme exemple, agneau.
Dans,
oui,
le,
oui.
dans une des galeries où on peut observer effectivement quelques pas hein, d'enfants et de, d'adultes.
C'est vrai.
Semble-t-il. Ça, ça peut être.
Alors, dans, c'est le réseau clastre oui. De la grotte de Niaud, mais ce n'est pas accessible au public.
Non.
Et je crois que Pechmerle est une des rares grottes, peut-être la seule, je ne sais pas, qui permet de, au public de voir des empreintes paléolithiques, d'authentiques empreintes. Donc ça, c'est assez émouvant. Hein, quand on voit ces empreintes-là, on est présent devant ces traces laissées involontairement par les humains qui sont passés par là. Et aujourd'hui, ben, on se trouve exactement au même endroit, sauf qu'on est 20 000 ans plus tard. Quoi.
Alors, depuis les études d'André Lemozy, on imagine que les préhistoriens n'ont jamais cessé de s'intéresser finalement à la grotte du Pechmerle. Qui recevez-vous aujourd'hui? Qui s'intéresse et pour quelles études?
Comme chercheur.
Oui.
Alors, effectivement, après Lemozy, qui a fait tout le travail de relevé et d'études de l'art pariétal, et également qui a fait le relevé des empreintes dont on parlait, qui a trouvé quelques objets également, hein, quelques objets dans la grotte. On n'en a pas énormément, mais il en a trouvé quelques-uns. Lemozy a, en fait, s'occupe de la grotte de Pechmerle jusque dans les années 60. Il décédera en 70. Et ensuite, il y a un autre chercheur qui va prendre le relais, c'est Michel Laure-Blanchet, qui est un chercheur spécialisé dans l'art pariétal, et en particulier du Quercy, et qui va consacrer toute sa vie de chercheur aux grottes ornées de la région, et qui va revenir sur la grotte de Pechmerle avec son regard neuf et avec des techniques d'études beaucoup plus modernes. Et il va travailler jusque dans les années 2010, donc c'est pas si vieux que ça, où il va publier une importante synthèse sur toutes les grottes ornées de la région, et en particulier sur Pechmerle, où il va consacrer 250 pages. Et là, il a fait un travail énorme, autant au niveau du relevé de l'art pariétal que des fouilles archéologiques qui se complètent. Et aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on considère que pour l'art, le travail a été réalisé, notamment par Michel Laure-Blanchet avec des techniques récentes. C'est un chercheur qui est reconnu vraiment de manière unanime par toute la communauté scientifique, donc il n'y a pas de problème, enfin de problème entre guillemets, où il n'y a pas de manque de ce côté-là. Aujourd'hui, les chercheurs que l'on reçoit s'intéressent davantage aux conditions de conservation des peintures, parce qu'on connaît l'épisode tragique de Lascaux, qui a été obligé de fermer en 64, je crois, par une surfréquentation du public. Ici, nous sommes donc sur un lieu qui est extrêmement fragile, un milieu naturel très sensible, et nous accueillons du public. Et cela depuis presque un siècle. Donc se pose la question de la bonne conservation de ces dessins, bonne conservation qui se poursuit aujourd'hui encore. On a des dessins qui sont en parfait état de préservation, et on continue d'accueillir du public en nombre limité. Mais on doit faire face aujourd'hui à une nouvelle donnée qui est le réchauffement climatique. On a un réchauffement climatique global sur la planète qui se ressent également au milieu souterrain. Et on a observé, là, depuis 10 ans, une très légère augmentation de la température de base de la grotte. Elle a augmenté de 0,3 degrés sur 10 ans. Mais c'est une augmentation qui est régulière et qui est constante. Et donc se pose la question de savoir, ben voilà, dans les décennies à venir, comment les choses vont évoluer si cette température-là monte encore.
C'est une préoccupation qu'ont aussi les gestionnaires des autres grottes, par exemple, bien sûr vous citiez Lascaux, mais même Agneau, on constate effectivement l'augmentation de cette température, même faible, et aussi les variations en termes d'infiltration des eaux.
Donc, la
réaction de la roche au-dessus, à quelle profondeur se situent les peintures par rapport au sol contemporain?
Au sol actuel, on est aux alentours d'une trentaine de mètres à peu près.
Donc, il y a quand même malgré tout une forme d'inertie, bien sûr, dans le...
C'est la raison pour laquelle on peut continuer d'accueillir du public, justement. La grotte est grande, donc elle a une forte inertie thermique qui lui permet d'encaisser, entre guillemets, des variations de température que l'on amène quand on fait les visites. Mais effectivement, la grotte est relative à une certaine inertie. Malgré tout, ce réchauffement climatique impacte l'ensemble du milieu souterrain. Effectivement, ça ne se produit pas qu'ici, à Pechmerle ou dans la région du Quercy. C'est l'ensemble des grottes ornées ou non ornées, qui voient leur augmentation. Bref, pour revenir à votre question, effectivement, là, on accueille davantage de chercheurs qui nous apportent des éléments sur la bonne compréhension du fonctionnement du milieu naturel, et de la grotte de Pechmerle en particulier, donc sur les questions d'infiltration et d'écoulement d'eau, sur les questions de circulation d'air à travers les fissures, à travers les failles, les questions de pression atmosphérique, de gaz carbonique, de taux d'humidité, de microparticules dans l'air.
Enfin, oui, tous les polluants, en fait, qui peuvent affecter aussi bien la conservation des peintures que l'air ambiant.
Bah, disons qu'on essaye de définir le plus justement possible comment la grotte fonctionne. Voilà. Quand il fait plus froid dehors, quels sont les échanges d'air? Quand il fait plus chaud à l'extérieur, quelles sont les circulations d'air qui évoluent? Donc voilà,
c'est ce que des capteurs donc ont été placés dans la grotte pour enregistrer tous ces paramètres, le taux d'humidité relative, la température, les variations des polluants, etc. Parce que ça, ce sont des outils justement plutôt modernes, plutôt récents.
Oui, tout à fait. Mais depuis presque 30 ans, on a des capteurs qui sont installés dans la grotte, notamment pour le suivi du climat, donc les questions de température de l'air, de la grotte, de l'atmosphère, la température des parois en différents points, le gaz carbonique, etc. Oui. Et là, ces dernières années, on a rajouté effectivement des mesures concernant la formation de calcite, mesurer les écoulements d'eau, compter les particules dans l'air, les microparticules dans l'air, donc les microparticules plutôt grosses, plutôt moyennes ou toutes petites. Donc effectivement, la grotte est très équipée de ce point de vue-là. Et il y a tout un collectif de chercheurs qui s'est constitué, des chercheurs de différentes universités et laboratoires en France, Paris, Bordeaux, Toulouse, les Pyrénées, pour mettre en commun leurs compétences et essayer de faire une synthèse, en fait, de faire un partage d'informations. Ces chercheurs ont mené également une numérisation 3D complète de la cavité, et l'idée à terme, c'est d'essayer, à partir de ce modèle 3D, d'avoir en fait un modèle numérique sur lequel on puisse venir placer les différents paramètres mesurés, de température, de circulation, d'eau, d'air, etc., et de voir si on modifie tel ou tel paramètre, voir comment la cavité réagit à l'intérieur.
Je vous propose une pause musicale, Bertrand Defoy. Vous avez choisi aujourd'hui Purple Moon de Parov Stella. Pourriez-vous nous préciser la raison de ce choix?
Parce que c'est la musique que j'écoute là ces derniers temps. Je suis plutôt branché musique électronique. Et là, Parov Stella, je trouvais qu'il faisait un mélange entre le swing et l'électronique, qui était plutôt agréable et enjoué. Donc je voulais vous le faire partager.
L'album s'appelle Voodoo Sonic de 2020.
Oui, il y a plein de bons titres, j'ai eu du mal à choisir.
Je vous remercie. Thank you. fois, grotte du Pêche-Merle, près de Cahors. On est toujours saisi quand on visite des grottes ornées par l'incroyable réalisme des sujets représentés, ou leur style, le nombre d'ébauches aussi, ou d'essais. Et en même temps, qui sont ces êtres qui ont pu réaliser toutes ces représentations? A-t-on une idée? Quelles étaient les questions que se posait Amédée Lemosi à l'époque de la découverte? Que proposait-il?
Ouh, plein de questions difficiles. Enfin, qui étaient-ils, ces personnes qui sont venues faire les dessins dans la grotte? Ce sont des Homo sapiens, déjà. C'est notre espèce, ils étaient exactement identiques à nous, ils avaient les mêmes capacités cognitives, ils étaient tout aussi intelligents, ils avaient du langage, et ils vivaient comme, je dirais, comme nous aujourd'hui, sans tout le confort moderne, bien entendu, mais ils étaient tout aussi évolués, je dirais, d'un point de vue intellectuel. Des hommes, des femmes sont venus faire des dessins. Bon, aujourd'hui, on est dans une période post-MeToo. On a longtemps dit que c'était les hommes préhistoriques qui avaient fait les dessins, les hommes préhistoriques qui allaient à la chasse, les hommes préhistoriques qui faisaient ceci ou cela. À l'époque, il y avait des femmes aussi. Il y avait des enfants. Donc voilà, ce sont des hommes, des femmes qui sont venus faire ces dessins dans la grotte. Quelles étaient leurs motivations? Ça, c'est pas une question qui est évidente. On se la pose depuis la découverte de l'art préhistorique à la fin du 19e siècle. Il y a eu différentes hypothèses tout au long du 20e siècle pour expliquer la présence de dessins en milieu souterrain. Les premières hypothèses disaient « Oh, ben, c'est les préhistoriques qui avaient du temps à perdre. Une fois que la chasse était terminée, ils ne savaient pas quoi faire de leur journée, donc pour passer le temps, ils allaient faire des dessins. » Donc l'art pour l'art. C'est une théorie qui n'a pas tenu bien longtemps, mais enfin, ça a été une des premières qui a été exprimée. Ensuite, on a dit « Ah ben non, c'est des dessins magiques, et on allait représenter sur les parois des animaux que l'on allait chasser le lendemain, et le fait de les dessiner et de les toucher ou de les blesser symboliquement à travers les dessins, ça allait favoriser la chasse du lendemain. » Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'à cette époque-là, ils consommaient principalement du renne, et que des rennes, en fait, dans les grottes, il y en a très peu représentées. Donc, c'était pas le menu qui était dessiné sur les parois de la grotte. Après, milieu du XXe siècle, il y a eu André Leroy-Gourhan qui a apporté énormément dans la manière d'appréhender le milieu souterrain et les dessins, à travers le structuralisme, où il a essayé de décortiquer l'organisation des panneaux, d'attribuer une symbolique dualiste, féminin, masculin, entre les différents dessins. Et puis qui a organisé aussi d'un point de vue chronologique les choses, avec comme point de départ, les dessins les plus anciens étaient ceux qui étaient les moins aboutis, les moins bien faits, les moins bien réalisés, pour arriver jusqu'à Lascaux, où qui était l'aboutissement du réalisme, de la figuration, avec tous les détails, les perspectives, etc. Et puis il y a eu dans les années 90, en 94, la découverte de la grotte Chauvet, qui a révolutionné en fait l'art pariétal. Quand on a connu les datations, la grotte Chauvet reste à ce jour parmi les grottes les plus anciennes découvertes en Europe. On est daté aux alentours de 36-37 000 ans. Et dès le départ, ils maîtrisaient tous les aspects techniques du dessin, avec la perspective, avec les détails, avec énormément de réalisme.
Quelles sont les datations qui sont proposées pour la grotte du Pêche-Merle?
Alors pour Pêche-Merle, il y a deux phases en fait dans les dessins de Pêche-Merle. Une phase ancienne, qui correspond aux alentours de 30 000 ans, et puis une phase plus récente qui est aux alentours de 25-26 000 ans. Les deux sont compris dans une culture préhistorique qu'on appelle le Gravettien. Donc aux alentours de 30 000 ans, c'est le Gravettien moyen, et puis 25-26 000, c'est plutôt le Gravettien final. Donc voilà, et les dessins de Chauvet dont je parlais, c'est une culture antérieure, l'Aurignacien, et donc daté de 36-37 000, donc on est sur des phases quand même relativement anciennes.
Quelles sont les représentations les plus anciennes
à Pêche-Merle? Alors à Pêche-Merle, on a tout un ensemble, c'est le panneau des chevaux ponctués dont je parlais, donc c'est deux chevaux recouverts de taches, de points noirs, et puis des dessins qui sont difficilement accessibles dans la partie du galerie du Combel, non aménagée au public, où on a notamment deux panneaux qui font partie de ces dessins volontairement cachés, donc le panneau du lion, et puis le panneau dit des antilopes. Alors, comme ces dessins ne sont pas visibles par le public quand on fait la visite de la grotte, on a fait la reproduction, le facsimilé de ces dessins dans le musée de préhistoire qui est juste en dessous. Donc, il y a possibilité de les voir. Ce ne sont pas les dessins originaux, mais on peut les voir malgré tout. Donc voilà, ça c'est la phase ancienne des dessins de Pechmerle. Et puis le dessin, dont la grande composition de la frise noire, elle, est plutôt de la phase récente.
A-t-on une idée des techniques, des produits qui étaient utilisés par nos ancêtres? Où en est l'état de l'art et de la question aujourd'hui?
Oui. Alors ici, ils ont utilisé principalement deux éléments, deux pigments, de couleur en fait, du rouge et du noir. Alors le rouge, c'est de l'ocre. En fait, c'est de l'oxyde de fer. C'est du minéral que l'on retrouve naturellement dans des poches ici dans la région. Alors on peut trouver, quand c'est très oxydé, des poches extrêmement rouges, un rouge très soutenu, ou il peut y avoir des variations vers le orange ou le marron orangé. Et puis l'autre couleur, c'est le noir. Et pour nous ici, c'est du manganèse, du bioxyde de manganèse qui a été utilisé pour faire ces dessins, qui est un élément minéral, là encore, et que l'on retrouve à l'état naturel dans différentes grottes de la vallée du Lot, par exemple. Et donc voilà, ce sont les deux couleurs utilisées. Alors ça a été utilisé de différentes manières, pour parler un peu technique. Le manganèse peut être sculpté dans une sorte de crayon, une sorte de grosse craie ou un fusain, et ensuite être utilisé directement comme un crayon directement sur la paroi. Le manganèse peut être également broyé, réduit en poudre, et à ce moment-là, on peut soit le transformer en peinture, en y rajoutant un liant, un peu de graisse animale par exemple, ou on peut également le mélanger à la salive et le mettre dans la bouche, mélanger à la salive, et on obtient une pâte assez liquide comme ça dans la bouche, et ensuite on peut projeter cette peinture sur la paroi, on peut la cracher directement sur la paroi. Ça, c'est une technique un peu particulière que l'on retrouve ici à Pechmerle et qui a servi notamment à la réalisation du panneau des chevaux ponctués, puisque l'essentiel de ce panneau a été réalisé donc avec la technique du crachis ou du soufflet, où on projette la peinture comme ça avec la bouche, et on utilise les mains pour s'en servir comme pochoir et pour préserver les endroits que l'on ne veut pas peindre. Donc voilà, et puis l'autre pigment, donc l'ocre, peut être également utilisé soit avec la technique du crachis, soit avec des crayons qu'on peut façonner, soit à la peinture directement avec un pinceau ou une baguette de bois trempée par exemple.
Avez-vous vous-même essayé toutes ces techniques?
Ah oui, bien sûr. Ah ben oui, pour en parler, le mieux c'est de l'essayer.
C'est l'archéologie expérimentale.
Exactement. Et puis ça permet de se rendre compte que c'est pas si évident que ça.
Oui, justement, nos ancêtres allaient peindre quand même ces motifs suffisamment grands, assez gigantesques, dans des cavités qui n'étaient pas éclairées. Donc ça suppose un groupe humain qui vient pour aider. Comment s'éclairait-il?
Alors, il s'éclairait avec des lampes. Ce sont des lampes à graisse. En fait, c'est un peu l'ancêtre de la lampe à huile. Le principe, c'est d'avoir un caillou dans lequel on va aménager un petit... on va faire un petit creux qui va servir de réservoir. On va mettre de la graisse animale, par exemple de la graisse de renne, à cet endroit-là. Et puis au milieu, on va mettre de la mousse séchée, du lichen, roulé, et qui va servir de mèche, qui va porter la flamme en fait, et qui va en même temps aspirer, drainer la graisse qui se trouve en dessous. Donc avec la flamme, la graisse va fondre, et puis cette graisse fondue, liquide, va remonter le long de la mèche, et ça va s'éclairer comme ça. Donc on a retrouvé, y compris à Lascaux, des lampes à graisse comme ça dans des grottes ornées. On en a retrouvé une ici à Pechmerle. Et donc c'est un moyen très pratique, parce qu'on la tient dans la main, c'est une pierre dont ça ne chauffe pas, on peut se déplacer assez facilement, et puis on peut la poser au sol, et donc ça suffit pour, je dirais, s'éclairer 1,50 m autour de soi. Et donc il faut préciser quand même qu'il maîtrisait parfaitement le feu, ça fait plus de 450 000 ans que l'humanité maîtrise le feu, donc là il n'y a aucun problème pour le produire et puis pour le contrôler, le maîtriser, mais il maîtrisait ça très bien. Donc il s'en servait pour explorer la cavité et puis pour faire la réalisation des dessins. On peut imaginer plusieurs lampes à graisse disposées au sol, ou dans certains cas, pourquoi pas, faire des feux directement au sol, donc avec des morceaux de bois amenés de l'extérieur, et en faisant un foyer directement sur le sol de la cavité. Ça permettait d'avoir une lumière plus vive et plus durable également, pour réaliser un grand panneau comme celui des chevaux par exemple.
Vous avez reçu ici Gilles Tozzello,
oui,
qui est artiste et préhistorien,
oui,
spécialisé dans la reconstitution,
oui,
des parois et des peintures. Il a travaillé bien sûr pour Koskher, pour la grotte Koskher. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec lui.
Bon, Gilles, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est vrai qu'on l'a sollicité là, il y a 3-4 ans de ça à peu près. Ben justement pour réaliser les facsimilés dont je vous parlais, les dessins de cette galerie du Combel inaccessible au public. Et donc on l'a sollicité pour qu'il puisse nous aider à faire ces facsimilés. Et je trouve que ouais, Gilles est quelqu'un de vraiment passionnant, parce qu'il a cette double casquette de chercheur, de scientifique, sur l'art préhistorique. Et également, il est dessinateur. Et donc il peut faire à la fois son travail de chercheur et le travail de médiation. Donc il est vraiment bien comment dire, équipé, je dirais, pour faire de la médiation en direction du grand public.
Alors précision, on peut retrouver Gilles Tozzello, puisque j'ai eu le bonheur de le recevoir pour une émission appelée Cap Cap il y a très peu de temps. Et donc vous retrouverez, si vous avez envie d'écouter Gilles Tozzello, qui est un homme absolument passionnant et passionné aussi, vous le retrouverez sur le site de la station Esprit Occitanie, hein, dans la catégorie Cap Cap, vous pourrez retrouver cette notre conversation qui a duré une heure et à laquelle personnellement j'ai pris grand plaisir, et j'ai recueilli aussi beaucoup d'enseignements auprès de cet homme très simple, très direct et manifestement grand professionnel.
Très grand professionnel, pardon, qui nous permet justement, de, par ses recherches, d'essayer de comprendre comment ces motifs ont été peints, hein, puisqu'il s'intéresse avec sa femme Carole Fritz, tous les deux sont au CNRS, il s'intéresse à la tracéologie, hein, c'est-à-dire à la façon dont les motifs ont été construits. Ce sont des hypothèses qui sont d'autant plus passionnantes que Gilles Tozzello, étant lui-même artiste, recrée forcément le geste ou possiblement le geste de l'artiste de l'époque.
Cognitivement, c'est peut-être un de ceux qui les a approchés de plus près, parce qu'il a, il m'a raconté au cours de cette émission qu'il avait peut-être un peu au début sous-estimé la difficulté, qu'il avait un peu manqué d'humilité, puis qu'il s'est très vite rendu compte de la complexité de ses dessins, de la complexité des techniques. Et donc, il s'est véritablement mis cognitivement, dans le, si je puis dire, hein, dans leur peau, je ne sais pas si le terme est exact. En tout cas, il les a approchés beaucoup plus que nous tous ici, ou peut-être pas vous, Bertrand de Foix, qui avait aussi tenté de la reconstitution. Mais...
Oh, mais très modestement, moi j'ai essayé de cracher, faire une main négative, mais dessiner un cheval, ça ne ressemblera jamais à un cheval dessiné par les préhistoriques, c'est clair. Mais un exemple du regard de Gilles Tozzello, sur le panneau dit des antilopes, ici à Pêche-Merle, ce sont des animaux imaginaires, qui, avec différents éléments de plusieurs animaux, les dessinateurs ont recréé des animaux, une sorte de chimère en fait. Et donc c'est ce panneau-là que l'on avait demandé à Gilles de reproduire, et il a examiné, on est allé voir les originaux sur place, on a pris pas mal de photos, on a regardé ça de près, et puis au moment de réaliser le facsimilé, en fait on a trois animaux les uns sur les autres, et qui sont une forme de petite frise comme ça, et l'animal de gauche, la patte arrière de l'animal de gauche, se termine dans une sorte de creux de la paroi, une sorte de petit trou, qui a une forme particulière qui pourrait faire penser à un sabot. Et donc, ça se goupille bien par rapport à cette représentation-là, et effectivement, il nous a dit, mais en essayant de faire le facsimilé, et en essayant de reproduire le dessin, pour moi, ce trou-là, c'est le point de départ du dessin. C'est-à-dire que les dessinateurs sont partis de cette forme particulière de sabot, et c'est à partir de là qu'ils ont remonté la cuisse, puis fait le dos, puis l'encolure jusqu'à la tête.
Comme les panneaux, le panneau des chevaux, où on est peut-être parti de la tête de cheval, hein, qui est figurée par le rocher pour peindre ensuite. C'est le cheval de droite qui a été peint le premier, celui donc, oui, dont la tête est figurée par cette roche.
Oui. Oui. Mais alors, effectivement, nous, quand on dessine, si on prend une feuille de papier ou sur un mur et qu'on nous demande de dessiner, je ne sais pas moi, une chèvre, un cheval, un mouton, peu importe, je ne suis pas sûr que je vais commencer par la patte. Je vais plutôt commencer par la ligne de dos, le dos, par la tête, par l'encolure. D'abord le haut, en fait, et puis ensuite descendre. Et là, visiblement, j'ai trouvé que c'était en tout cas un regard intéressant. Au final, on n'en sait rien. On ne sait pas comment les choses se sont passées. Et j'ai trouvé que, voilà, le regard de Gilles, en se mettant dans la peau du dessinateur et en essayant de faire en sorte que son dessin puisse se terminer par ce petit creux qui allait représenter le sabot, le plus simple, c'était effectivement peut-être de partir du sabot et de remonter l'animal et de le faire en sens inverse que moi, spontanément, je ferais, par exemple. Donc voilà, je trouve que c'est et il y a que quelqu'un qui à la fois connaît les dessins et qui pratique, qui s'y essaye, qui se confronte vraiment à la réalisation de, à la reproduction de dessins préhistoriques, où on peut se rendre compte de ça. Et Gilles Tozzello est particulièrement intéressant pour ça. Et vous avez raison, c'est vraiment une des personnes qui a le plus approché en fait les techniques de réalisation des préhistoriques.
C'est ça, c'est très intéressant parce que lui nous transmet une émotion par justement la recréation en fait du geste de l'époque. Quand même, on peut se rappeler pour nos auditeurs que tous ces dessins ont été faits de mémoire, puisque oui. Les animaux n'étaient pas comme dans des ateliers de dessin aujourd'hui, les animaux n'étaient pas présents.
Ils ne posaient pas dans la grotte.
Ils ne posaient pas. Donc, ce qui suppose tout de même que les artistes de l'époque mémorisaient des formes, mais ensuite également s'inspiraient de la grotte, des reliefs de la grotte, peut-être des lumières qui jouaient sur les parois, pour recréer, imaginer. Donc, c'était aussi des artistes, c'était pas seulement...
Et qu'ils peignaient dans des conditions quand même extrêmement compliquées. On a parlé des lampes à graisse ou des feux, mais ça ne donnait pas une lumière certainement parfaite. Ils n'avaient pas non plus trop de recul par rapport à ce qu'ils dessinaient. Donc ça veut dire qu'il y avait une conception intellectuelle qui avait été faite en amont. C'était travaillé notamment dans les grands panneaux et celui des chevaux. C'était travaillé avant, ailleurs, et on venait reproduire ce qu'on avait conçu, ce qu'on avait imaginé dans la grotte. Mm. Ce qui m'amène à une question, alors je reviens un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ils sont descendus dans les grottes pour peindre, mais ils n'y ont peint que certaines choses. Ils n'ont peint que certains animaux, des peintures représentant l'homme, il n'y en a quasiment pas, mm-hmm. si ce n'est l'homme blessé, qu'on trouve les deux à Cugnac et une à Pêche-Merle, quelques représentations féminines souvent très sexuées, mais à part ça, il n'y a aucune représentation de nature et certains animaux sont complètement exclus de ces peintures. Donc ça avait un sens profond. Est-ce que c'était une espèce de proto-langage à votre avis ?
C'est pas impossible du tout. C'est vrai que quand on fait l'inventaire des animaux qui sont représentés, c'est un certain bestiaire. Il y a une sélection. D'une manière générale, c'est plutôt des grands herbivores. Parce que les animaux les plus représentés, ce sont les mammouths, les chevaux, les bisons, les aurochs. Ici, à Pêche-Merle, c'est le mammouth qui est le plus représenté. On en a 28 représentations totales. Donc voilà. Après, des animaux comme les poissons, par exemple, restent extrêmement rares.
Bien qu'il y en ait un sur le panneau des chevaux.
Oui,
un grand poisson, mais c'est... une espèce de brochet, peut-être.
Mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde en fait l'ensemble des grottes ornées et de l'art pariétal, on a des animaux qui sont très très peu représentés, à un ou deux ou quelques exemplaires seulement. Alors que bison, mammouth, chevaux, c'est par dizaines et des dizaines d'exemplaires qu'on les retrouve. Donc il y a effectivement un corpus, il y a un bestiaire qui est sélectionné.
Sachant que ce corpus que vous évoquez, pendant 30 000 ans, dans toute l'Europe, on a peint la même chose. On n'est jamais sorti de ce corpus dans toute l'Europe pendant 30 000 ans. Mmh. C'est considérable.
Oui. Oui, oui.
Donc il y a fait, attaché à ça, il y avait une vraie culture.
Tout à fait. Alors, il y a des cultures qui ont évolué, hein, parce qu'on retrouve des particularités à la fois temporelles et géographiques. Par exemple, les animaux dangereux comme les lions, on les retrouve plutôt sur les périodes anciennes. Par exemple, dans le nord de l'Espagne, en Cantabrie, Asturie, on retrouve énormément de biches que l'on retrouve beaucoup moins par chez nous. Donc il y a quand même des particularités locales ou temporelles. Après, dessiner un bison il y a 30 000 ans n'avait peut-être pas la même signification que dessiner un bison il y a 15 000 ans. C'est-à-dire que le sens, le contenu du dessin peut évoluer aussi à travers le temps, parce que c'est vrai que l'art pariétal se dure à l'échelle continentale sur au moins 25 000 ans. Donc nous, on est dans une civilisation, une culture qui a tout juste 2000 ans. Il faut se rendre compte un peu des échelles de temps. Donc on peut imaginer effectivement qu'il ait pu y partager quelque chose de commun, une culture commune. Ça c'est à peu près certain, et on le retrouve à travers des motifs géométriques, des signes complètement abstraits que l'on retrouve à différents endroits, ou des représentations féminines, comme les Vénus par exemple, les Vénus paléolithiques, qui datent du Gravettien également, que l'on retrouve à peu près partout, diffusées dans toute l'Europe occidentale. Donc ils partageaient quelque chose. Ils ont choisi des animaux à représenter. Ils ont ensuite énormément travaillé pour composer certains panneaux. Quand on voit la frise noire ou le panneau des chevaux ponctués, c'est quelque chose qui est très abouti, qui est extrêmement construit, qui est très réfléchi. Les dessinateurs qui venaient là, je suis à peu près convaincu que c'était des personnes qui avaient déjà un don naturel pour le dessin.
Et qu'ils avaient travaillé.
Et qu'en plus de ce don, ils avaient énormément travaillé. Énormément eu d'entraînement, alors que l'on ne retrouve pas dans la grotte. Dans la grotte, a priori, ce ne sont pas des ébauches. Les essais, les tentatives, où l'entraînement se faisait sans doute à l'extérieur. Sur des dessins qui ont disparu maintenant, parce que c'était des dessins qui étaient en pied de falaise, ou sur des rochers, ou tout simplement sur une plage de sable au bord de la rivière. Donc, quand on voit des dessins, par exemple le cheval central de la frise noire, qui fait plus de 2 mètres de long, et de la queue jusqu'à la tête, c'est un seul trait, sur une paroi qui n'est pas plane, et quand on prend du recul, le dessin est parfaitement juste, ben il faut avoir un sacré coup de crayon. Et on a 25 animaux sur cette frise noire, il n'y a aucune retouche, il n'y a aucun remords. Il y a 4 animaux différents représentés en plusieurs exemplaires, des chevaux, des bisons, mammouths, aurochs, et tout ça, à chaque fois, du premier coup de crayon.
Ça veut dire que cognitivement, nos grands ancêtres, qui étaient comme nous, puisque le cerveau n'a quasiment pas évolué depuis, avait une civilisation qui était certainement beaucoup plus brillante que ce que l'image d'Épinal a véhiculé jusqu'ici.
C'est certain. C'est certain. Et en archéologie, en préhistoire, on ne retrouve que les traces matérielles, des objets. Donc on a perdu, en fait, tout ce qui était leur culture, tout ce qui était le non-matériel. Alors il y a peut-être quelque chose qui nous reste, c'est justement l'art. L'art qui nous ouvre une petite porte sur leur culture, éventuellement sur leurs croyances de cette époque-là. Mais sinon, tout le reste, ben, ce sont des vestiges de repas, des vestiges d'armement, des vestiges d'installations, de campements, mais voilà.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un message qu'ils nous ont adressé à nous, leurs très très lointains successeurs, comme nous le faisons aujourd'hui avec, à travers Voyageur 1 et Voyageur 2, on a déjà parlé de ça, Bertrand, nous avons envoyé dans l'espace très lointain des manifestations de notre existence en essayant de dire qui on était sous différentes formes. Est-ce qu'ils auraient pu avoir ce désir de faire connaître dans un endroit extrêmement protégé et très symbolique pour eux? Est-ce qu'ils auraient eu le désir de nous faire connaître leur existence, leur culture, leur pensée, leur civilisation?
C'est une possibilité. C'est une possibilité. On n'en sait rien, mais c'est une possibilité. Je pense, moi, que les dessins que l'on voit dans ces grottes-là, ce sont parmi les premières figures de l'humanité. Donc d'un point de vue psychologique, intellectuel, c'est une révolution, c'est un big bang intellectuel vraiment très important. Et quand on découvre la possibilité que l'on puisse représenter l'environnement ou les choses importantes sur une paroi, et que l'homme donc puisse devenir créateur de figures comme ça, je pense que la première motivation, c'est de raconter ou de mettre sur les parois des choses importantes pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas faire n'importe quoi, ils n'allaient pas simplement décrire leur paysage, ou leur environnement, ou les animaux qui étaient importants pour eux, mais c'est qu'ils allaient sans doute raconter, j'aurais tendance à penser plutôt des histoires, des mythologies.
Une façon d'être au monde, qui était la leur.
Une lecture du monde.
Une lecture du monde.
Leur lecture du monde. Et on le retrouve dans différentes cultures et dans différentes civilisations à travers toutes les périodes. C'est-à-dire que les premiers dessins dans une culture, ben, c'est souvent pour raconter, expliquer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc les mythologies liées à la création du monde. Et moi, je suis à peu près persuadé que quand on voit une composition comme la frise noire, où on a pu déterminer que c'était un seul dessinateur qui avait fait ces 25 animaux, dans un ordre très particulier, et l'ensemble de ce panneau raconte quelque chose, raconte une histoire. Et on a un chercheur, Marc Azema par exemple, qui nous a montré qu'il y avait certaines figures où il y avait le mouvement qui était décrit dans certains dessins. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas si on peut parler de proto-langage, mais en tout cas, il y a un message. Derrière ces figures, c'est certain, il y a quelque chose, il y a un message que l'on n'a pas réussi à décoder encore jusqu'à nos jours.
Je vous renvoie sur ce que nous a expliqué Gilles Tosello sur certaines peintures avec certaines perspectives. Son discours là-dessus, on ne va pas le reprendre, on n'en a pas le temps parce qu'on va arriver bientôt au terme de cet entretien. Mais sa lecture est absolument passionnante et ouvre des perspectives importantes. Le fait, vous avez parlé tout à l'heure de la technique du crachis. Le fait de peindre avec le crachis, c'est quand même pas innocent, c'est le souffle de l'homme, c'est-à-dire ce qui est le plus vital pour lui, qu'il va transmettre à la paroi. Ça va peut-être plus loin qu'un simple dessin avec un crayon de manganèse ou d'ocre.
Effectivement, c'est pas anodin, et ça va plus loin que un dessin fait avec un autre instrument. C'est une technique où là, vraiment, l'humain s'implique à part entière. Effectivement, c'est le souffle, tout ce qui... ça sort du corps, voilà, et ça vient se projeter sur la paroi.
Oui, on peut évoquer à ce sujet toutes les mains de Gargasse, oui. Et toutes les mains que l'on constate dans de nombreuses grottes, soit en négatif, soit en positif.
Oui. Hein,
donc, soit avec l'application directe du pigment sur la main, puis la main sur la paroi, ou au contraire, effectivement, cette technique du projectil. Donc, il y avait quand même une maîtrise et un choix possible dans les techniques qui étaient utilisées pour transmettre des messages. Alors, en parlant de transmission... Vous gérez aussi l'accueil du public dans ce musée qui a été rénové pour les 100 ans de la découverte et qui est magnifique, où vous présentez justement la lampe à huile que vous évoquiez tout à l'heure. Comment gérez-vous le public du point de vue de la conservation, mais aussi comment transmettre ces émotions que tous les chercheurs et vous-même ressentez quand on pénètre dans cette cavité? Quels sont les moyens qui sont les vôtres?
Alors, depuis longtemps, en fait, on a une contrainte pour l'accueil du public. Nous avons un seuil maximum. Nous sommes limités en fréquentation. C'est une fréquentation quotidienne. Et par conséquent, on compose des groupes de visite de 25 personnes. Et quand la journée est complète, eh bien, on refuse du monde. Donc, c'est pour cela qu'on invite les personnes qui veulent venir visiter à prendre une réservation sur notre site internet. C'est le plus simple de pouvoir visiter. Donc, on est limité en nombre de visiteurs chaque jour. Et ensuite, chaque visite, limitée à 25 personnes maximum, est limitée également dans le temps. On se donne environ 45 minutes pour faire la visite de la grotte. Alors ça s'explique parce que quand on descend dans la cavité, la grotte est à une température stable toute l'année aux alentours de 12,5 degrés. Et nous, avec notre température corporelle de 37 degrés, quand on y descend et qu'on reste du temps, ben on dégage de la chaleur et donc on contribue à réchauffer l'air de la grotte. Et c'est pour ça que l'on reste un temps limité, c'est pour éviter que notre impact thermique soit trop important pour la grotte. Parce que si jamais l'air de la cavité venait à être beaucoup plus important, ça fait une différence de température avec la paroi, et donc du coup, c'est ce qui se produit quand on prend une douche dans une salle de bain. Sur les parois, eh ben, on a de la buée qui se forme, des petites gouttelettes, et si nous on a ces gouttelettes d'eau qui se forment sur les parois, ben, ça peut soulever les pigments de peinture, et donc à ce moment-là, abîmer les dessins. Donc on essaye de... voilà, on y arrive, par cette limitation de temps et du nombre de visiteurs, de ne pas trop réchauffer la grotte, et c'est grâce à cela qu'on arrive à bien préserver le climat naturel de la cavité.
Les visiteurs le comprennent.
On leur explique et ils le comprennent à partir de ce moment-là. Oui, oui.
Quelles émotions vous comptent-ils à la sortie de la grotte? En ont-ils?
Ah, alors, pour transmettre ça au public, un élément essentiel, c'est le guide qui accompagne les visiteurs dans la cavité et qui présente ce que l'on sait aujourd'hui de ces dessins et de cette époque où les dessins ont été réalisés. Après, c'est la grotte qui fait le travail, parce que la grotte est tellement époustouflante d'un point de vue naturel, décor géologique. Quand on voit au milieu de ça ces dessins, et que l'on apprend que ces dessins ont 25 000 ans, celui-là 30 000 ans, et puis que l'on est devant ces empreintes de pas, et puis qu'on est devant ces mains négatives, c'est la grotte qui produit l'émotion toute seule, en fait. Et on a parfois des personnes qui ressortent, qui ont les larmes aux yeux. Il y en a qui, c'est la première fois qu'ils visitent une grotte ornée authentique, et qui sont complètement bouleversés. Bon, puis d'autres qui sont beaucoup moins touchés, mais on a quand même beaucoup de personnes qui ressortent de là un peu remuées quand même.
Les élus aussi sont-ils sensibles à ce patrimoine?
Oui, bien sûr. Ah ben, d'autant plus que les élus de la commune, en tout cas, sont propriétaires de cette grotte. Hein. C'est une grotte qui est communale. Le musée également est communal. Et on est ici au centre de préhistoire sous gestion directe de la commune. Donc effectivement, ils sont très attentifs à la fois sur les questions de conservation et puis en termes de médiation également, bien sûr.
Quelles aides recevez-vous? Quel financement recevez-vous pour...
Aucun.
Eh bien, au moins, ça le mérite d'être clair. Vous n'avez de merci à dire à personne.
Voilà. Non, on dit merci à nos visiteurs parce que c'est eux qui nous financent.
Parce que le musée est classé quand même, les collections sont classées Musée de France.
Oui.
Et le site est classé au titre des monuments historiques.
Oui.
Et vous n'avez pas d'aide malgré tout de l'État?
Alors, pas d'aide au fonctionnement. Ensuite, quand il y a des travaux d'investissement qui peuvent être un peu lourds, on peut solliciter les services de l'État, en effet, pour de l'investissement uniquement. Et encore, parce que les dossiers sont des fois tellement complexes à monter, ou avec tellement de préalables, que parfois il est plus simple de s'en passer et d'aller directement au financement du projet pour que ce soit réalisé.
C'est vrai que dans la culture, ça devient un métier que d'aller quêter quelques sous pour effectivement pouvoir fonctionner. Moi, je voudrais, parce qu'on arrive presque au terme, Monique, de cet entretien, juste parler de livres, si les gens ont envie de prolonger. Alors, bon, il y a déjà, je parle sous votre contrôle, Bertrand Defoy, il y a déjà une bande dessinée, celle de Joël Polonsky. Les chevaux du Pêchemer, hein, qui est absolument magnifique, donc je vous recommande chaudement. Un autre livre, alors là c'est du texte, Le temps sacré des cavernes de Gwen Rigal chez Biophilia. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, enfin moi ça a été un peu mon début, et c'est par là que je suis rentré dans cette époque et dans ce monde, Le temps sacré des cavernes. Et puis pour ceux qui sont déjà peut-être plus avertis, plus courageux, parce que le livre est gros, donc s'il est gros, c'est qu'il est cher, mais il vaut quand même le coup, La caverne originelle de Jean-Loïc Lequelec à la découverte. Alors, un très gros livre, il faut déjà être averti pour le lire, mais qui est une mine aussi. Alors, quand on lit tous ces gens, on se rend compte qu'il y a un corpus minimal sur lequel tout le monde est d'accord, mais assez minimal finalement. Et le reste, il y a des hypothèses, et comme ce sont tous des scientifiques qui ne sont pas forcément d'accord, il y a des débats parfois intéressants, parfois animés aussi, hein, sur ces différentes hypothèses qui soutiennent et les uns et les autres.
Merci Jacques Lavergne, merci Bertrand Defoy de nous avoir reçus aujourd'hui à la grotte du Pêchemer. Et nous allons ressortir de cette époque, quitter les Gravettiens, et revenir parmi nous.
Oui, on va le faire avec regret quand même, hein, parce que c'était une époque où il n'y avait pas vraiment de conflits, on ne connaissait pas les guerres, on ne connaissait pas la violence, et puis on vivait en osmose avec la nature, ce qu'aujourd'hui on ne sait plus faire, puisqu'aujourd'hui nous faisons tout l'inverse, en détruisant la nature, et en ne vivant qu'au milieu de violences, soit interne au pays, soit entre pays. Donc finalement, nos grands ancêtres étaient des sages, étaient moins nombreux que nous, ça les aidait peut-être, mais ils étaient sages, et on peut penser, peut-être Bertrand, et vous nous le direz avant d'en finir, qu'ils ont finalement bien vécu.
Oh, je pense qu'ils vivaient très bien, oui. En parfait équilibre avec leur environnement. Alors ils avaient effectivement peut-être pas la durée de vie que l'on a aujourd'hui.
Oh, on a trouvé des cadavres assez anciens, en fait, des squelettes, oui. 60 ans.
Ça devait pas arriver beaucoup plus au-delà de 60 ans.
Ça leur a permis d'échapper à l'EHPAD.
Mais je pense qu'ils maîtrisaient également tout ce qui était soins. Ils avaient toute une pharmaceutique à leur disposition à travers les plantes. Ils maîtrisaient ça parfaitement bien. Je pense qu'on en a hérité, au moins... Dans les périodes plus récentes de la proto-histoire ou à l'Antiquité, il y avait encore ce savoir-faire qui avait été, peut-être jusqu'au Moyen-Âge aujourd'hui, effectivement, tout ça, ça a tendance à sacrément disparaître. Mais oui, je pense qu'ils avaient eu une belle vie. On a souvent associé la vie des préhistoriques à de la survie. Je ne pense pas que c'était le cas. Ils savaient très bien se débrouiller dans l'environnement. Et la vie était peut-être un petit peu plus rude, mais à mon avis, elle a été tout aussi agréable.
Alors, on l'adresse un salut lointain et fraternel?
Ah oui, bien sûr, très fraternel.
Merci Bertrand Defoy.
Merci Bertrand.
Merci à vous.
C'était Histoire, Histoire, une émission animée et produite par Monique Drieux. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission et de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie et sur l'application. À très bientôt pour une nouvelle histoire.